Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions trois lectures ce matin dans notre Bible, d'ouvrir dans l'Ancien Testament dans un premier temps le livre des Proverbes. Premier texte dans le chapitre 23, c'est 4 et 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne t'inquiète pas pour t'enrichir. Deuxième lecture, toujours dans le livre des Proverbes au chapitre 30, donc nous allons tourner quelques pages, verset 8, je présume que verset 7, je présume que vous connaissez bien ce passage. 30, verset 7, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Passons une dernière lecture dans le livre maintenant des Hébreux. Alors nous allons faire un grand saut dans notre Bible. Livre des Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13 verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Que Dieu nous bénisse à travers sa parole ce matin, et vous avez remarqué avec moi, le sujet est clairement affiché. Est-ce que je dois continuer à... Ça nous suffit? On apprend finalement, eh bien, à travers ces textes, que la conduite et la vie du chrétien n'est pas inspirée par l'amour. J'ai peut-être oublié quelque chose. L'amour de l'argent. Voilà. Alors, certes, inspiré par l'amour de Jésus-Christ et de Dieu dans nos cœurs, mais pas par l'amour de l'argent. Jésus, dans le sermon sur la montagne, et je sais que vous connaissez bien votre Bible, nous met sur la piste d'une idole ou d'une idolâtrie courante qui a traversé le monde et, hélas, dois-je le dire, aussi l'Église chrétienne. À travers les temps, les siècles, quand Jésus nous rapporte ces mots, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et Jésus, de conclure cette petite recommandation, qui n'en est pas une petite, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, nous tombons sur un mot qui est intéressant à considérer ce mot, dans ce temps qui nous est donné. Qui est Mammon? Vous avez une petite idée? On ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon vient de l'araméen, qui veut dire richesse. Regardez comme un dieu. On l'appellerait communément aujourd'hui le dieu de l'argent, ou le dieu tout simplement argent, richesse. Laissez-moi vous dire que ce dieu-là exerce sa fascination sur tous les hommes, croyants ou non. Son attrait et son charme sont envoûtants. À en croire, eh bien, finalement, ce que l'histoire nous a laissé, et à en croire certainement nos temps contemporain, notre monde contemporain. Et nous pouvons dire que devant ce Dieu-là, ses adorateurs se comptent par millions, peut-être certainement par milliards, hein, parce que maintenant on peut compter comme ça. Et il est vénéré partout. Il dresse ses autels dans les recoins du cœur les plus secrets. Et que ne ferait-on pas pour l'honorer ? Je vous rappelle ce proverbe populaire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et je pense qu'il y a une chose dont nous avons besoin de prendre toute la mesure parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons un Dieu qui a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Ce qui fait que nous avons besoin de prendre une autre mesure et une autre conception des choses en tant qu'enfants de Dieu, puisque le Seigneur nous a dit qu'il ne nous laisserait pas. Et n'est-il pas le plus riche de tous les banquiers ? N'est-il pas plus riche que tous ceux qui, eh bien, détiennent les fortunes du monde ? C'est pour ça que nous avons finalement besoin de prendre en considération que nous sommes un peuple à part et que notre Dieu est riche, qu'il est riche comme grand est le ciel, aussi vaste que l'univers, et pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous aurions quelquefois des craintes, des peurs et parfois des comportements vis-à-vis de ce fameux mammon dont nous parlons, et qui quelquefois nous fait des petits clins d'œil et puis nous dit « Tiens, viens un petit peu par ici, j'ai quelque chose à te donner ». Mais vous savez, c'est la proposition qui a été faite à Jésus dans la deuxième tentation. « Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses de ce monde, toute la gloire de ce monde. » Et Jésus a dit « Néni ». Enfin, il n'a peut-être pas dit ça comme ça, mais enfin, tous les jours, il a dit non. Pour nous montrer l'exemple d'un comportement chrétien face, eh bien, à la séduction de l'argent et à cet attrait qui, il faut bien le représenter, est quelque chose de très puissant dans notre société d'aujourd'hui. Une multitude d'hommes, riches ou pauvres, sacrifient dans ces autels, dans ces temples. Ils sacrifient leurs pensées, où la pensée de l'homme est continuellement tournée vers l'enrichissement. Ils sacrifient leurs forces, travailler toute une vie, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le proverbe 23, quand il nous dit « Mais pourquoi courais-tu après ce qui va partir et qui s'envole comme... » Finalement, eh bien, hein, qui s'envole comme l'aigle, parce que ça, faut quand même se rendre compte que finalement, eh bien, on peut constituer certainement une richesse dans notre vie, mais le jour où on va partir, on ne l'emmène pas avec nous. Je le dis encore, parce que vous allez dire que je me répète, mais quand même, je n'ai jamais vu un service d'inhumation avec un camion de déménagement derrière le corbillard. Ça, vous le savez. Et puis, les hommes y consacrent leur temps. Non seulement leur vie, mais leur temps, et puis leur amour pour lui. Ils lui ont voué depuis toujours une véritable passion. Et quand on regarde les publicités que l'on a autour de nous, on se dit, mais véritablement, ça marche, hein, et ça marchera encore longtemps. Moi, ça m'arrive quelquefois de trouver dans ma boîte aux lettres des petites enveloppes qui sont très généreuses, en disant si vous avez besoin d'argent, si vous voulez emprunter, si vous voulez ceci et cela. On vous prête tout de suite, hein, vous donnez un petit coup de fil, et puis demain matin, vous avez l'argent que vous avez besoin. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui tombent dans le panneau, qui tombent dans le piège, et même j'ai vu des chrétiens s'endetter, pour ne pas dire se surendetter. C'est terrible, ça. Et mettre et plonger les gens dans la misère, dans le souci. Alors ça, c'est notre société. On a tout ce que l'on veut aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier, on peut tout obtenir, mais après, il faut rembourser. Et c'est peut-être là, justement, certainement, où nous avons besoin de réfléchir. Je dirais que, puisque Jésus le met égal, enfin, pas égal, mais le met en comparaison, plutôt, avec Dieu, Dieu et Mammon, je dirais que Mammon, c'est une religion. Vous me permettez que j'emploie cette pensée, c'est une religion, puisqu'on parlait d'autel, on parlait de temple, on parlait de consécration, on parlait d'y donner tout son temps, on parlait d'y donner toute sa vie. C'est même la religion la plus répandue, celle à laquelle on est le plus fidèle, dans un certain sens. Et que ce soit le monde chrétien, que ce soit là d'autres conceptions religieuses du monde, eh bien on voit que ça fonctionne aussi avec l'argent. Beaucoup de choses fonctionnent de cette manière. Alors pourquoi, et nous allons nous intéresser ce matin et nous interroger, pourquoi cet engouement irraisonné ? Pourquoi ? Alors, je dirais que ça part d'une illusion. Comme beaucoup de fausses religions, cela part d'une illusion parce que l'on croit. Vous voyez, je vous parlais de religion, parce qu'on croit. On a cette confiance, on a ces dispositions, c'est encore une autre forme de démarche, pour obtenir une autre démarche de foi, on pourrait dire, que le Dieu Mammon, c'est-à-dire celui que l'on appelle l'argent, la richesse, dispose de toutes les clés et de toutes les solutions, de toutes les réponses au succès, à la gloire. Vous vous souvenez de Jésus avec la tentation, hein ? Si tu m'adores et te prosternes, eh bien je te donnerai tous ces royaumes. Donc, la réponse, la clé au succès, à la gloire, à la puissance, et c'est l'imagination, ou je dirais peut-être même en employant le mot que je viens de dire tout à l'heure, c'est l'illusion d'un certain bonheur, et pour d'autres, d'un bonheur certain. Ils se disent, quand j'aurai de l'argent, alors je serai heureux. Je pourrai satisfaire tous mes désirs. Vous avez remarqué tous les gens qui vont dans les bureaux de tabac. Ils ne vont plus chercher de cigarettes maintenant parce que ça coûte trop cher. Mais tirage, grattage, et puis tout ce que vous voulez en âge, et c'est pour tous les âges. Dernièrement, je voyais, ben, pas plus tard que cette semaine, une jeune fille qui avait un paquet, je ne juge pas, mais je constate. Je voyais une jeune fille qui sortait d'un bureau de tabac et puis elle avait toute une pile, finalement, de produits à gratter. On peut dire comme ça, parce que moi, j'ai jamais fréquenté ce genre de choses. Et puis, elle grattait, puis elle les jetait au fur et à mesure dans la poubelle. Alors, moi, je ne sais pas combien ça vaut, hein, mais je me dis quand même, quel argent perdu. Parce que vous connaissez la probabilité de gagner. Vous devriez le savoir. Peut-être que ça nous réfrénerait un petit peu, parce que je me dis, mais qu'est-ce que l'on peut faire et comment fait-on marcher les gens? Et on nous dit qu'une société en dépression, comme la nôtre, une société malade, n'a jamais autant consommé de ce genre de produits. Alors on va nous dire, mais si les gens jouent, les autres paieront moins d'impôts. Je vous rappelle que c'est le moment. Donc, voilà les considérations du monde par rapport à l'argent. Et on court. Alors c'est vrai que de temps en temps on nous dit, voilà, il y a monsieur un tel ou madame un tel a gagné ceci et cela, et puis, ben oui, mais il y en a un sur je ne sais pas combien. Hein. Sans le dieu argent, qui est extrêmement persuasif, quand vous aurez votre yacht dans le port de Saint-Nazaire, imaginez-vous un peu. Alors sans ce dieu argent, pas de pain quotidien, c'est vrai. Pas de vêtements. C'est vrai. Sans argent, le nécessaire nous échappe. Quant au superflu, au plaisir, eh bien, il fait rêver les hommes. Et il prétend rendre la vie plus agréable. Je mets un point d'interrogation après l'adjectif agréable. La vie plus facile, c'est à vérifier. Et plus sûre. Je me dis, si j'ai de l'argent, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, au moins, je pourrais me faire soigner. Mais on a bien vu des millions et des millions de gens atteints de maladies mortelles qui, même avec leur argent, eh bien, n'ont pas échappé à la mort. Oh, ça peut aider, c'est sûr. Passez votre convalescence dans une maison de repos en Suisse, peut-être que ça peut vous aider, parce que là, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est vous qui l'ajoutez en plus. C'est peut-être un confort supplémentaire, mais quand même. On est dans une ville où on construit des beaux bateaux. Il y en a un là qui est beau, là, je suis allé le voir, il est magnifique, il est splendide, là, le SCM, comment ça s'appelle, Musica, hein, je crois. Hein. Ils ont juste marqué le nom, mais ils l'ont pas peint encore. Hein. Et je me dis que ça, c'est aussi un produit qui est livré, finalement, eh bien là, au bonheur des gens, aux rêves, entretenant les rêves. Nous pouvons bénir le Seigneur qu'il y ait du travail dans notre région. Hein. C'est vrai. Et je crois que nous avons besoin de prier, finalement, pour ça. Mais je pense que tout cela, eh bien, est destiné à entretenir, hein, naturellement. Mammon draine toute la confiance de l'humanité à son profit. Et peut-être que je dirais que Dieu, dans cette affaire, où est-il? En promettant des lendemains qui chantent, connaissez aussi cette expression, comme le raisonnement de celui-ci, et celui-ci, vous le connaissez bien, parce que c'est un personnage qui est quand même au cœur des paraboles que Jésus nous laisse, Et celui-ci, vous le savez, il est question d'un homme où Jésus le met en parabole, c'est une allégorie, il nous est parlé des terres d'un homme riche qui avait beaucoup rapporté, et je précise encore qu'il était déjà riche, mais il est encore plus riche, et la richesse va à la richesse. C'est bizarre, hein ? Et il raisonnait en lui-même, disant, « Mais que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ?» J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Bon, il n'y a rien de plus légitime qu'après une vie bien remplie, une vie de labeur, et certainement d'avoir gagné sa vie honnêtement, eh bien là, on puisse avoir ce raisonnement. Mais attention, le dieu Mammon est le roi des menteurs. Ouais. Il est le roi des menteurs. Il est le roi des ensorceleurs. Il est le roi des illusionnistes qui tuent les consciences, qui rend aveugle sur les réalités spirituelles et finalités de l'existence. Je ne sais pas comment vous jugez la chose, mais ça, c'est la version de la parole de Dieu. Comment Dieu nous donne de regarder dans ce sens et de porter un jugement qui soit un jugement juste et réel. Il rend aveugle par rapport aux réalités spirituelles. Et pour revenir à ce fameux celui-ci dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, nous avons la preuve de cette cécité aux réalités spirituelles. Quand à un moment donné, Dieu l'interpelle et lui dit ceci insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé. Pour qui sera-ce ? Réfléchis un peu. Te rends compte tes greniers ? Tu te rends compte ta retraite que tu as versée pendant 40 ans ? Tu te rends compte un peu tout ce que tu as fait ? Cette entreprise que tu as mis en route et qui maintenant fonctionne et qui fait ta fierté ? Mais cette nuit, tu vas mourir. Et pour qui sera-ce ? Et Jésus de conclure, il en est ainsi de celui qui amasse, parce que le mot amasser est très pertinent, il amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche. Et il n'est pas dit pour les autres seulement, mais il est dit pour Dieu. Pas riche pour Dieu. Là est le problème. La question est posée à chacun en ces termes. On ne peut plus compréhensible. Parce que nous allons maintenant aborder un autre texte qui va servir de référence et nourrir notre réflexion. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Et nous allons voir. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous donne, eh bien, de nourrir et d'aller plus loin dans notre réflexion. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9, c'est aussi très clair. Mais ceux qui veulent s'enrichir, nous dit l'apôtre, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de peu de mots, de tous les mots, et quelques-uns en étant possédés, je souligne le mot possession, hein, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Un mot surgit, un mot qui exprime à la fois, à l'analyse que nous faisons du verset, la profondeur, la puissance et le secret. Ce mot, c'est le mot racine. Et ça, c'est employé par l'apôtre Paul, le mot racine. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une petite anecdote, une petite illustration sur ce qu'est une racine, et la puissance d'une racine, et la profondeur d'une racine, et le travail secret d'une racine. Parce que nous avons des beaux arbres. Mais qu'est-ce que l'on voit de l'arbre ? On y voit le tronc, enfin dans un arbre classique. On y voit les branches. On y voit également les feuilles. parfois ce sont des arbres à fleurs, on y voit les fruits, mais vous voyez pas les racines. Et pourtant, dans la racine, il y a de la puissance. Il y a une force considérable. À différents objets, elle a certainement différentes fonctions, la racine, mais vous ne la voyez pas. Mais elle est là, la racine. Alors, imaginons-nous, une splendide maison qui est environnée d'un bouquet magnifique d'arbres, comme cela arrive, où vous avez là un parc qui entoure cette maison. Alors, on y trouve naturellement beaucoup de temps agréable, l'ombrage, la fraîcheur. Et puis, sinon aussi, là, avec la variation et le changement des saisons, vous avez tout un enchantement, le printemps, l'automne. L'hiver, c'est un petit peu plus triste, faut l'avouer. On pourrait dire que voilà, cette maison se trouve dans un écrin de verdure, c'est un petit bijou dans un écrin de verdure. Et au fil du temps, dans le silence du monde souterrain, il y a ces puissantes racines qui sont en train de travailler, qui accomplissent une œuvre prodigieusement redoutable, au point d'ébranler la maison en raison de la proximité finalement de ces arbres plantés, et qui cette belle maison va finir à un moment ou un autre par se lézarder, par se fissurer, elle va craqueler, elle menace la ruine finalement cette maison en raison de ces arbres qui ont été plantés peut-être un peu trop près. C'est comme l'argent, si on est un petit peu trop près, si notre cœur y est un petit peu trop près, il va y avoir là des problèmes à un moment ou un autre. Une racine ou des racines qui se cachent discrètement, mais qui avec le temps va occasionner beaucoup de déviations et beaucoup de douleurs si l'on n'y prend pas garde, tel est Mammon. Une racine, en parlant arboriculture ou agriculture vénéneuse, à en juger. Et l'expression de Paul est justement appropriée, parce que je rappelle les mots que nous avons lus dans Timothée. Il est question de tentation d'une. Il est question de piège de deux. Il est question de désirs insensés et pernicieux, dont les résultats se nomment ruine, perdition, égarement, tourment. Alors, je vous le donne à penser, existe-t-il un mal plus destructeur? Je n'ai fait que reprendre les mots du verset, enfin de ces versets que nous avons lus. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien rajouté. Je n'ai pris que ce que Paul, certainement inspiré par le Saint-Esprit, nous dit de ce qu'est Mammon. Alors, on va revenir justement à notre fameux Mammon. Je voudrais ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire que ce soir ou demain, vous alliez à la banque en disant « Moi, je liquide mon compte en banque, je vis par la foi. » Alors non, je ne veux pas en être responsable. Vous comprenez qu'il faut un équilibre dans la vie. Vous avez, moi j'ai besoin d'argent, comme tout un chacun, naturellement, pour vivre. Mais le problème n'est pas de sanctionner et de condamner l'argent. Mais c'est d'avoir un jugement juste et d'avoir un équilibre de vie. C'est ça ce qui est important. Nous avons besoin des moyens d'existence, des moyens économiques. Et il s'agit d'apprendre à bien gérer à la gloire de Dieu ce que Dieu nous a donné. Et moi, j'ai remarqué une chose par l'expérience du ministère. C'est quand on sait bien gérer les choses, Dieu va nous en donner encore davantage. Ouais. Mais quand on est un petit peu un tantinet porté de droite ou de gauche vers les extrêmes, eh bien, on n'est jamais riche. On ne peut pas l'être. Parce que ça, c'est une sagesse que Dieu nous donne. Et j'ai vu quelquefois des gens, avec des salaires qui étaient des salaires au-dessus de la moyenne, nous dire « j'y arrive pas ». Et j'ai vu aussi des gens qui, quelquefois, juste avec un SMIG, faisaient des prodiges. Je me disais « mais vraiment, Seigneur, comment font-ils ?» Eh bien, tout était compté, tout était... Finalement, bien géré, Et ils comptaient, ces gens-là, eh bien, sur la grâce de Dieu. Et la moindre petite chose, le moindre achat pour faire plaisir, eh bien, était une source de pouvoir, finalement, remercier le Seigneur en disant, mais Seigneur, avec le peu, tu m'as donné de faire de grandes choses. Et ces gens étaient peut-être beaucoup plus réjouis que ceux qui, eh bien, la achètent. Et vous savez que c'est un mal aujourd'hui, les achats, hein. Ouais, je veux pas casser, il n'y a pas des commerçants parmi nous. C'est un mal. Vous savez que les psychologues et les psychiatres disent qu'il y a une frénésie d'acheter parce que les gens pensent se contenter en achetant. Et vous avez remarqué, les gens qui achètent des paires de chaussures, hein, 3 ou 4 fois par semaine, des vêtements et tout cela, ça devient de la gloutonnerie. Ça devient là quelque chose de maladif. Hein. Et les gens en ont des placards remplis. Hein, et ils les mettent une fois et puis c'est terminé. Mais ça dénote finalement, eh bien, un état de maladie à l'intérieur. C'est terrible cela. Voilà notre siècle, voilà notre temps. Nos grands-parents y reviendraient, mais ils ont dit, mais de quoi se plaignent-ils? Hein? Quand il fallait marcher avec des souliers ou des chaussures avec des semelles de bois, on n'en est plus là, hein? Et puis tout le reste, mais ça dénote une maladie à l'intérieur. Et il y a des gens qui ont cette propension à vouloir combler le vide qu'il y a dans leur cœur en achetant. J'achète. Et à ce moment-là, eh bien, ça me donne le sentiment de remplir quelque chose, mais c'est jamais rempli. Et puis vous savez qu'on ne peut marcher qu'avec une chaussure à la fois, une paire de chaussures à la fois. Alors, en ce qui concerne Mammon, on se l'imagine comme un mythe inoffensif. On se dit, bah oui, c'est facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faciles quand on a de l'argent. Tout au plus un symbole. Mais Mammon est une puissance. Et ça, je voudrais le dire. Ouais. Le billet vert, ou l'euro, ou le yen, enfin tout ce que vous voulez, les monnaies des hommes. On se dit, bah, tout ça c'est symbolique. Hein. Qu'est-ce que représente le dollar? Le dollar, ça représente la richesse, ça représente la prospérité, ça représente l'Amérique. Ça représente finalement, eh bien là, beaucoup de choses. Oui. Il y a des symboles derrière tout cela. Mais moi, je vous dis ce matin, pour que nous le comprenions, parce que nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement des symboles qui font rêver, mais c'est une puissance. C'est une puissance, mais ce n'est pas une puissance de bénédiction, obligatoirement. C'est peut-être une puissance de destruction. Moi, il y a une chose qui me dérange, pour parler gentiment, c'est de mettre la religion et l'argent ensemble. Alors là, je peux vous dire que qu'il y ait un fonctionnement normal, c'est une chose. Mais qu'il y ait véritablement l'achat de bénédiction, de dire comme ces doctrines de prospérité qu'on nous a, excusez-moi, rabâché les oreilles, je serai sans complaisance. De dire, il faut que vous donniez, vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Alors écoutez, alors moi je me lève et je dis non. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas en raison de ce que vous avez, de ce que vous donnez. La bénédiction de Dieu, c'est en raison de ce que vous êtes. Et ça, c'est quand même différent. Et je pourrais dire que ça, ces doctrines évangéliques de prospérité, ce sont des fausses doctrines. Illusoires. C'est une puissance de, j'ajoute, parce que je ne l'ai pas dit encore, de séduction. Dans la société humaine, partout où il y a des problèmes, parce qu'on parlait de solutions, partout où il y a des problèmes, il ne faut pas chercher beaucoup pour en découvrir la racine. Et la source des problèmes, nous dit Paul, et nous le constatons encore aujourd'hui, eh bien c'est Mammon, c'est l'argent, c'est le dieu argent. Parce que c'est un dieu totalitaire, c'est un dieu despotique, c'est un dieu dictateur, devant lequel la plupart plient les genoux. Et à partir du moment où nous rentrons dans cette conception de choses, eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous allez marcher. Et il va y avoir soit le bâton ou la carotte, d'une façon ou d'une autre. L'argent est aimé ou il est détesté. L'argent, on le bénit ou on le maudit. Quand on en a, on le bénit. Et quand on n'en a pas, c'est autre chose. On lui voue un amour qui réclame beaucoup, mais qui en retour donne si peu, ou alors que de satisfaction fugitive. le bonheur et la paix dans notre cœur ne viendront jamais avec des consommations fugitives. Je l'ai dit et je le répète, nous ne devons pas être des consommateurs, mais des consomme-acteurs. Si vous voyez la différence. C'est que nous devons impliquer notre réflexion, et notre réflexion va et doit marcher avec notre cœur. Si notre cœur est rempli du Saint-Esprit, nous saurons quoi faire. Avec finalement, eh bien, ce que Dieu nous a donné. Alors nous allons voir brièvement ce que l'argent peut engendrer, puisque nous avions ce texte, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans toutes sortes de choses. Paul écrit, et il nous dit que l'argent est destructeur, il est liquidateur de la foi. C'est pas liquidateur de biens, hein ? C'est un liquidateur de la foi, Paul le dit. Alors il écrit ceci, notre apôtre, il dit, quelques-uns pour s'y être adonnés, comprenez le mot adonné, ça veut dire que là, il y a quelque chose où nous nous sommes véritablement appliqués à obtenir ou à désirer. Quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi. Perdre la foi, voilà la question dont il s'agit. Perdre la foi pour cause d'abondance matérielle. Vous croyez que c'est possible ? Hélas, nous le voyons malheureusement dans nos églises. Je ne parle pas de ceux qui se déclarent croyants mais finalement qui ne croient en rien, des athées pratiques. Je parle de ceux qui ont été engagés, qui ont fait une expérience et qui à un moment ou un autre de leur vie, eh bien, ont perdu la foi pour raison d'abondance matérielle. Et ça, c'est possible. Il nous est cité un cas dans l'Évangile, dans les Épîtres. Il s'appelle Démas. Ça vous dit quelque chose, Démas ? Ouais. Démas, qui était un homme, un disciple jadis au service de Christ, et la parole de Dieu nous dit qu'il a perdu pied et il a fait naufrage. Quant au siècle présent, en reprenant les termes de l'apôtre, pour l'amour de l'argent et l'amour du monde. La poursuite de l'enrichissement effréné, inconsidéré, irréfléchi. Et là, nous pouvons apporter cette parole que Jésus donne dans une des paraboles de l'Évangile. Je dirais, la poursuite de l'enrichissement irraisonné étouffe la parole et la rend infructueuse. Vous avez reconnu l'histoire du semeur, où la semence tombe dans les épines et dans les ronces. Servir deux maîtres, c'est impossible. Je ne sais pas si vous avez plusieurs patrons, plusieurs employeurs. Moi, j'en ai qu'un. Mais quelquefois, c'est pas facile hein, de jongler avec les horaires. Et puis finalement, il y a des gens qui sont là à travers servir plusieurs entreprises. Liquidateur de la foi, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'amour de l'argent. L'amour qui associe deux mots, argent et mensonge, sont deux complices associés. C'est pour ça que nous avons lu les textes dans Proverbe, hein, à un moment donné, garde-moi de la fausseté. C'est ce qu'il dit, hein. Seigneur, garde ma bouche. Parce que l'argent et le mensonge, ce sont deux associés, deux complices. On pourrait dire coquin. On pourrait le dire comme ça. Souvenons-nous dans le livre des Actes des Apôtres de ce couple, je mets entre guillemets généreux, dont les noms sont Ananias et Saphira, qui ont menti effrontément au Saint-Esprit et à Pierre. Connaissez chapitre 5, livre des Actes. Et ils ont dissimulé une transaction. Alors que finalement, ils n'étaient pas forcés et personne ne leur avait demandé de donner leur argent. Mais ils ont voulu dissimuler aux yeux de l'Église primitive en faisant croire à leur bonne foi alors que leur geste était une escroquerie. Et quand Pierre dira à Ananias, mais comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit ? Ils n'étaient pas obligés de donner leur argent, comme personne n'est obligé de donner son argent au Seigneur. Si nous le faisons, comme Paul le dit, eh bien nous le faisons sans contrainte et avec joie. Et nous nous apercevons qu'à ce moment-là, eh bien, ils ont tellement maquillé la chose que c'est devenu des escrocs au milieu du peuple de Dieu. Le meilleur gain pousse souvent au mensonge et à des petits arrangements, entre parenthèses, douteux. Et si nous faisons les choses, eh bien, nous devons les faire dans la vérité et sans arranger nos affaires comme ce couple dans Michée au chapitre 6 et au verset 11. Je rappelle ce texte qui est élémentaire pour chacun d'entre nous. Est-on pur avec des balances fausses et avec un faux poids dans le sac, en parole et en action? En parole et en action. Donc je disais argent et mensonge, hein, en complémentarité. Il y a un troisième point en ce qui concerne ce danger de Mammon, c'est, et vous l'avez reconnu vous-même, c'est que tous les conflits qui ont existé, existants ou qui existeront, les guerres meurtrières, c'est-à-dire les vraies guerres, hein, c'est pas des guéguerres, tirent leur cause dans l'avidité de l'argent. Et qu'est-ce qu'on n'investit pas, finalement, pour faire la guerre? Ça ruine un pays. Ça met un peuple exsangue. Mais on y va. Et pourquoi? Pourquoi? Peut-être pour s'emparer de la richesse de l'autre que l'on a vaincu. Ou de territoire des autres. Partout où il y a des richesses à s'approprier, la zizanie est là. Zizanie. C'est pas un prénom, hein. C'est un nom dangereux. L'or et les trésors ont toujours fait couler non seulement beaucoup d'encre dans les romans, mais beaucoup de sang. Parce que devant l'argent, on n'hésitera pas à tuer. Je vous raconte rien, je vous apprends rien. Tous les romans, tous les bouquins noirs et tout ce que vous voudrez, hein, les héritages, toutes sortes de choses, ont généré des disputes, brisé les liens les plus unis parce qu'il y avait au milieu l'argent. Un jour, quelqu'un est venu dire à Jésus cette parole devant la foule. Maître, j'ai quelque chose à te demander. Je suis vraiment préoccupé parce que tu sais, j'ai un frère, il est vilain. Il est vraiment pas gentil avec moi et moi, Jésus, j'aimerais que tu dises à mon frère de partager notre héritage. Ça se passe toujours très bien, les héritages. Et puis voilà que le problème, il est parti. Enfin, le problème commence plutôt. Et voilà que la guerre dans les familles commence. Et voilà que les histoires entre les époux, entre les frères et les sœurs, et puis ceci et cela. Et c'est parti, je dirais, comme en 14. Parce que c'est la guerre, ça. Amour de l'argent, le mensonge, les conflits et le vol. L'amour de l'argent et le vol. Et là, il y a un terme qui est approprié dans la parole de Dieu, c'est le verbe frauder. Vous avez remarqué? Il est parlé de fraude. Judas était le trésorier de l'équipe. Judas. Et il y a bien longtemps qu'il avait mis ses scrupules sous ses pieds, notre Judas. Alors, pour donner bonne mesure, on le voit un beau jour s'indigner contre Marie, qui, entre parenthèses, gaspille un parfum de nard de grand prix. Et il proteste avec beaucoup de véhémence, il se tourne vers Jésus, c'est lui qui le fait, c'est pas les autres. Il se dit, mais Seigneur, tu te rends compte, tout cette perte, un parfum qui a une valeur inestimable. Il est de grand cœur, hein, notre Judas. Il se dit, on aurait pu le donner aux pauvres, tu te rends compte, ça, maintenant ça coule sur tes pieds, mais ça va servir à quoi tout ça? Et c'est lui qui s'indigne. Mais, tandis qu'on s'aperçoit en lisant la parole de Dieu dans son comportement en général, que lui, en douce, il glisse une main discrète dans la bourse des disciples, dans la bourse qui fait vivre Jésus et les disciples. Mais ça, vous voyez comment je fais là? Doucement, doucement, doucement. Vous pouvez pas le voir de votre côté, mais je vais le faire par ici. Voilà, comme ça. Eh oui! C'est un bel hypocrite à notre Judas. parce qu'il se, il est en train de juger une femme qui le fait de tout son cœur, et finalement c'est son parfum à elle, il n'a rien à dire. Et lui, il est en train de s'offusquer en disant, mais Seigneur, vous savez, c'est toujours ceux qui condamnent les autres qui quelquefois ne sont, auraient besoin de se regarder de temps en temps. L'intégrité est une vertu, frères et sœurs. Moi, je pense que si on est chrétien, il faut être droit dans les affaires. Il faut être droit par rapport à l'argent. Il faut avoir, comme on dit, eh bien, payé rubis sur l'ongle. Parce que Dieu voit les injustices. Il voit, excusez-moi, un terme qui revient très souvent dans notre société, ce sont les magouilles. Et il ne doit pas y avoir de magouilles dans l'Église du Seigneur. On doit, on paie ce que l'on doit. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on va s'enrichir. D'ailleurs, il y a un proverbe qui le dit. Je crois qu'il faut que nous ayons l'intégrité. Il nous est parlé de Noé, il nous est parlé de Job, comme des hommes justes et droits, intègres. Vous voulez la bénédiction du Seigneur ? C'est pas parce que vous donnerez votre argent à l'Église et autre part. C'est parce que vous serez intègre et droit, parce que vous aurez un cœur où il n'y aura pas de balance fausse à l'intérieur. Là, Dieu bénira. Que d'hommes, je parle en général, sont malhonnêtes dans les affaires, pour grappiller toujours un peu plus, en se disant, si je trompe l'acheteur, eh bien, je gagnerai un peu plus d'argent sur son compte. Eh bien, c'est pas vrai. Moi, j'ai entendu des témoignages de chrétiens qui, avant de se convertir, étaient dans les affaires, et au moment où ils étaient dans les affaires, ils ont fait des choses malhonnêtes. Et ils ont dit dans leur témoignage, tout ce que j'avais gagné malhonnêtement, je l'ai perdu après. J'ai tout perdu après. On ne peut pas s'enrichir avec des faux poids dans le sac. C'est pas possible. Voilà, vous en conviendrez, une détestable racine qui ronge l'âme. Et elle ronge l'âme, et c'est un des prophètes de l'Ancienne Alliance qui, de la part de Dieu, inspiré, dira ceci. Vous allez vous souvenir de ce texte. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu. Bon, c'est vrai, elle est couvée des œufs quand elle n'a pas pondu. Alors, comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, c'est-à-dire qu'il va mourir, si j'ai bien compris le texte. Il va les quitter, et au moment de sa fin, eh bien, Dieu lui dira, comme à ce riche cultivateur de la parabole chapitre 13 ou chapitre 12 du livre de l'évangile de Luc, tu n'es qu'un insensé. C'est marqué, hein. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Mammon, on continue un petit peu, hein. Ça vous gêne pas que je continue? Ouais. C'est pratique, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pas de la haute théologie. Hein. C'est pratique. Mammon est une source de reniement et de trahison entre les hommes et, hélas, faut-il le dire, parfois peut-être même entre les chrétiens. Que d'histoires pitoyables où des amis, je dirais des frères, ont été vendus pour de misérables et sordides intérêts. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph avec ses frères et 30 pièces d'argent. Mais ça a été 15 ans, 17 ans de prison pour Joseph. Pas l'oublier. Et puis Jésus, on parlait de Judas, 30 pièces d'argent aussi. C'est tragique, mais ça existe. Et je dis que ça ne devrait pas exister dans le peuple de Dieu. Des choses pareilles. Alors, quand ça arrive, je peux vous dire qu'il ne peut plus y avoir de confiance. Ben oui, c'est forcé. La confiance est laminée, elle est abîmée. Comment faire confiance à quelqu'un qui vous a trahi et qui vous a vendu? Alors, je ne peux pas vous dire qu'il faut prendre une massue et puis le mettre en pièces. Non. Il faut revenir à l'évangile à ce moment-là, parce que Joseph a pardonné. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Alors, faut pas tomber dans le piège aussi de dire, il m'a fait ça, et bien maintenant, je vais lui faire payer. Bon, c'est autre chose. La charité se refroidit quand il y a ce genre de choses, et surtout quand il y a au milieu des pièces, quand il y a de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, il est dit ceci, verset 3, et ça s'adresse au peuple de Dieu. 2 Pierre 2, verset 3, « Par cupidité, ils trafiqueront, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. » Moi, je pense à cette grande prostituée, l'Église apostate, l'Église chrétienne apostate, qui a mis en avant l'argent. Vous allez me dire, qu'est-ce que je suis rigoureux ce matin. Mais écoutez, je n'invente rien. Et quand il est dit, ils trafiqueront avec des paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous. Mais quand on voit, mais nous pouvons en avoir honte, quand on voit ce que l'Église d'hier et d'aujourd'hui a été capable de faire avec les indulgences, avec les rémissions payantes, avec toutes sortes de choses, je me dis, mais quelle honte! Et à la base de tout ça, l'argent. L'argent qui enflamme et l'argent qui pourrit tout. Je vais passer très rapidement maintenant. Il y a encore un autre point, ou un avant-dernier point, de ce que nous appelons espèce sonnante et trébuchante, phénomène de société d'aujourd'hui. Que dire de la prostitution? Vous allez me dire, ça, on ne devrait pas en parler, et pourtant c'est une réalité. Que dire également de ce commerce honteux de produits illicites? On ne devrait pas en parler, on en parle toujours dans l'évangélisation, c'est la drogue, l'alcool ou autre chose, qui donne la mort. Le monde serait-il qu'il n'y a pas que le monde, qu'est-ce que le monde serait-il s'il n'y avait pas tous ces gens, tous ces commerçants? Ce que nous dit le chapitre 18 de livre de l'Apocalypse, trafiquant d'âme et de corps, c'est écrit dans la Bible, hein, trafiquant d'âme et de corps, exploitant d'établissements de jeu, où l'on se ruine parce que ce monde-là fait fortune. Écoutez bien, sur la désespérance, sur la convoitise et l'illusion des autres. Et sans parler finalement, eh bien, de ce monde occulte, dans lequel nous pouvons aussi ajouter, eh bien là, une rubrique, tout ce pouvoir occulte, ce monde obscur, qui gravite autour de l'astrologie, de la divination, des sciences occultes. Il paraît que leur chiffre d'affaires, inavoué et phénoménal, il dépasse tout ce qui peut être régulier et enregistré. De beaucoup, à renfort de promesses de chance, de bénédiction, de délivrance, à grand renfort de billets, nous voyons que l'homme achète sa place, et j'ose le dire ce matin, sa place en enfer. On peut affirmer, à l'instar de Jean l'apôtre, que le monde entier gît dans... Vous hésitez là à me répondre, parce que j'allais vous... Il gît dans... Pardon, j'ai entendu, mais j'ai pas entendu assez. Ouais. Il gît dans le monde entier gît dans le malin, mais moi je vais changer un petit peu les choses, je veux dire, le monde entier gît dans l'argent. Tous les magasins de nos villes, qui étaient des magasins de commerce, ont été remplacés aujourd'hui par des banques. Ah, c'est vrai? Gît dans l'argent, et ce monde est animé par l'argent. Son âme vit pour l'argent, adore l'argent. Et Mammon est son prince. Et sans le savoir, les hommes sont ses esclaves. Je suis libre, nous dira-t-on. Je suis libre parce que j'ai un compte en banque. Je suis libre parce que j'ai des billets, j'ai des euros, j'ai des dollars, j'ai ceci et cela. Et c'est vrai que ça me donne des possibilités. Mais je suis néanmoins esclave. L'objectif, finalement, du travail du diable, du malin, puisque nous disions qu'il gît dans le malin, le monde entier gît dans le malin, l'objectif est justement de détrôner Dieu. Pour ça, Jésus nous dit, on ne peut servir Dieu et Mammon, et les deux sont mis, justement, l'un à côté de l'autre. Dire qu'aimer l'argent, si je suis le raisonnement de Jésus, c'est haïr Dieu. où il aimera l'un et haïra l'autre. Et ça, c'est une vérité qu'on a du mal à admettre. On peut, Seigneur, te dire, tu as une place dans mon cœur, mais tu as une place aussi, il y a une place pour autre chose. Alors, quelle position doit-on avoir, doit avoir l'enfant de Dieu ? Je termine sur cette réflexion de conclusion. Mammon, peut exercer une subtile emprise sans que j'en sois vraiment conscient. À travers les leviers qu'il exerce, qui est la crainte et la peur de perdre, la peur de manquer, quelques racines que je dirais d'économie avaricieuse, besoin de posséder pour se rassurer, alors je me pose la question, où en est ma dépendance et ma confiance dans le Seigneur ? Vous avez lu avec moi, et je le reprends ce texte parce qu'il est quand même, me semble-t-il, d'une grande pertinence. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, nous dit l'apôtre qui a écrit les Hébreux. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit lui-même, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, mes frères et mes sœurs, qui peut-être, sans vous en rendre compte, laissez quelques racines, peur de perdre, peur de manquer, peur de ne pas être suffisamment sécurisé. Mais est-ce que le Seigneur ne vous a-t-il pas dit et vous répète ce matin que c'est lui qui prendra en compte votre vie ? Et vous ne manquerez de rien. » Moi, je vous l'ai dit de la part de Dieu. Dans notre vie, nous avons fait plusieurs expériences de tout laisser avec mon épouse. On ne se met pas en exemple, certainement pas. Mais à plusieurs reprises, j'ai quitté mon travail, j'ai laissé des situations, et je peux vous dire qu'en laissant ce que j'ai laissé, ce que nous avons laissé, nous avons toujours plus après. Ouais, toujours plus après. D'une autre façon, d'une autre nature. Mais le Seigneur ne nous a jamais, jamais, jamais abandonnés. Et il ne vous abandonnera jamais si vous lui faites confiance. Parce que ça, c'est un faux problème. Qui est le maître et le serviteur ? Peut-être ce matin, nous sommes en train de réfléchir à la question. Qui est votre maître ? Qui est le serviteur ? Quelle part tient l'argent dans ma vie ? Alors en réalité, peut-être ai-je besoin honnêtement d'une action libératrice du Saint-Esprit ? Parce que quand je me suis converti, je me suis dit, bon, l'argent, d'accord, je le mets à sa place. Puis avec le temps, avec même une certaine bénédiction de Dieu, on y a retrouvé un certain goût. Et quand on a, on ne veut pas lâcher. Et on a peur de lâcher au bout d'un certain temps, même en étant chrétien. Quelle place a toutes ces choses sur mon cœur ? Qui me permettent de remettre en ordre de valeur les priorités à leur vraie place, c'est-à-dire mes vrais et mes faux amis. Je ne parle pas des hommes, là. J'ai besoin de resituer entre les mains de Dieu, et ce sera la conclusion que j'apporterai ce matin à notre réflexion. J'ai besoin, en entendant cette parole, c'est pas la parole d'Alain Ouvrard, c'est la parole du Seigneur que je vous apporte, j'ai besoin de resituer entre les mains de mon Dieu ce que j'appelle mon argent, ce que j'appelle mes biens, mon avoir, ma vie, tout mon possessif, parce que vous avez reconnu que ce sont des adjectifs possessifs, tout mon possessif comme don du Seigneur, mon appartement, ma voiture, mon argent, ceci et cela, ce n'est pas à moi, c'est au Seigneur. Et je ne suis que le gérant. Et si je le gère bien, Dieu m'en donnera davantage. Mais je ne le fais pas dans cette idée. Parce qu'autrement, ça devient... Ce sont des dons de Dieu et dont je ne suis que le gérant. Et je vous dirais même que je suis le gérant heureux. Vous êtes heureux ? Vous êtes heureux d'avoir ce que vous avez ? Oui, oui. D'avoir ce que nous avons et de bénir tous les jours notre Dieu. Je suis un heureux utilisateur de ce que Dieu m'a donné. Autrement, ce n'est que vanité et un danger pour ma foi, assurément. Dieu veut que mon bien, que mon bonheur, que ma liberté, parce que ça compte, hein, alors soit la véritable richesse. Et ma véritable richesse, c'est pas ce que je possède, c'est de connaître mon Dieu. C'est lui, la véritable richesse. David dira dans un psaume dont je ne me souviens pas, mais bon, vous trouverez la référence, « Seigneur, tu es mon souverain bien. » Il le dit, hein, et moi j'aime bien cette parole. Alors à ce moment-là, la véritable richesse que je possède en tant qu'enfant de Dieu, eh bien c'est lui et seulement lui, parce qu'il est ma sécurité, parce qu'il est mon repos, parce qu'il est mon bonheur, parce qu'il est ma joie, s'il est tenu à la première place. Alors à ce moment-là, je serai heureux. Parce qu'il est maître et seigneur, sur le trône de mon cœur. Car là où est ton cœur, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, là sera ton trésor. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et qu'à travers cette réflexion, eh bien le Seigneur nous donne d'aller plus loin et d'évoluer, de grandir et de dire, Seigneur, tu es vraiment tout pour moi. Tu es ma richesse. Tu es ma fortune, Seigneur. Tu es mon souverain bien. Gloire à toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions parce que ce que nous sommes et ce que nous avons aujourd'hui, eh bien, Seigneur, ça nous a été donné de ta part. Nous te louons, Seigneur. Je ne veux pas regarder à ce qui me manque, mais je veux regarder à ce que j'ai aujourd'hui pour louer et glorifier ton nom, Seigneur Jésus.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sanazaire.fr.